RFI, Radio France Internationale, 8h30 à Paris et Brazzaville, 9h30 à Boutembo. L'heure du journal de Nemo en Pisse.
Et la cour d'appel de Paris qui confirme le non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française quant au massacre sur les collines de Bicécéro au mois de juin 1994. Nouvelle désillusion du côté de Kigali, nous y sommes dès le début de ce journal. Vous entendrez ensuite Félix Tshisekedi, le président congolais, a prononcé hier son traditionnel discours sur l'état de la nation. S'il a mis en avant de nombreux progrès sur des aspects de la vie socio-économique, il a également rappelé l'un des principaux défis du pays, la question sécuritaire, pointant une nouvelle fois du doigt le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Les inondations historiques et l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan, responsable de la baisse de la croissance économique au Tchad, c'est ce que souligne le FMI après ses consultations annuelles, sans oublier une baisse de la production pétrolière. Et puis retour sur la visite de Denis Sassou Nguesso en Libye, le chef de l'État du Congo Brazzaville y était en son rôle de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. C'est une nouvelle déception pour les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Hier, et un an après un non-lieu général déjà prononcé en octobre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française quant au massacre perpétré. C'était sur les collines de Bicécéro au mois de juin 1994. Lucie Mouillot a recueilli les réactions à Kigali.
C'est une déception pour Eric Dzabimana, partie civile du dossier. Rescapé de Bicécéro, l'ancien instituteur fait partie de ceux qui ont averti un convoi de l'opération turquoise des massacres sur les collines dès le 27 juin 1994. Mais les militaires n'interviennent que 3 jours plus tard. Aujourd'hui, le survivant se dit résigné.
J'ai pas été surpris par la décision de la justice française. Ça fait longtemps qu'ils ignorent la vérité qu'ils connaissent. Ça me fait mal au cœur. Si la conclusion d'Audiclair disant que la France a commis des erreurs graves dans le génocide et qu'on ne veut même pas continuer à poursuivre les coupables, c'est déplorable.
Un premier non-lieu général prononcé en 2022 avait été annulé pour des raisons de procédure liées à la publication du rapport de l'historien Vincent Duclerc, notant l'échec profond de la France à Bicécéro. Philibert Gakwenziré, président de l'association du rescapé Ibuka.
Pour nous, nous condamnons déjà le rôle qui a été joué par ces hommes, mais nous ne devons pas laisser à cette condamnation d'ordre historique. Normalement, il devait paraître devant la justice par rapport à ce que les actes ignobles qu'ils ont commis.
Les avocats de plusieurs organisations parties civiles ont déjà annoncé qu'un pourvoi en cassation était possible. Lucie Mouillot, Kigali. RFI.
Lui a tenu son premier discours sur l'état de la nation depuis sa réélection en fin d'année dernière. Félix Tshisekedi s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement congolais réunies hier en congrès à Kinshasa. Le chef de l'État adresse un bilan plutôt flatteur sur les réalisations de son gouvernement dans de nombreux secteurs de la vie socio-économique. Il reconnaît, malgré ses progrès réalisés, tout de même des difficultés sur la question sécuritaire, défis majeurs selon lui. Félix Tshisekedi qui s'en est une nouvelle fois pris au Rwanda voisin, Kigali, qui selon lui est en train de repeupler certaines parties de l'est du pays par des étrangers, sans toutefois donner plus de détails. On écoute le président congolais.
Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptait sur une victoire facile et immédiate. Au-delà des déplacements massifs de populations provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda.
Félix Tshisekedi qui, justement, doit rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame. Ce sera ce dimanche à Luanda, à l'invitation du président angolais, João Lourenço, pour une nouvelle réunion sur la situation dans l'est de la RDC. J'ajoute que dans son discours, le chef de l'État a également évoqué la possibilité d'un débat autour d'une réforme constitutionnelle. La situation économique au Tchad, on en fait le tour après la tenue des consultations annuelles du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le FMI qui met en avant une inflation qui devrait rester temporairement élevée sur l'année 2024. La croissance économique, elle, est à la baisse cette année. 3,1% contre 4,9% enregistré sur l'année 2023. Plus de détails avec Charlotte Cossé.
Si la légère baisse de la production pétrolière est pointée, ce sont surtout les impacts des inondations historiques et l'afflux continu de réfugiés en provenance du Soudan qui sont à l'origine de ce phénomène. Dans ce contexte, le FMI a salué les efforts accomplis pour l'élargissement de l'accès aux services publics, le renforcement de la gouvernance et l'amélioration du climat des affaires. La croissance au Tchad pourrait rebondir à moyen terme si des investissements publics soutenus et des réformes structurelles sont réalisées, note encore l'institution. De nombreuses attentes reposent sur la finalisation du nouveau plan national de développement. Parmi les éléments clés que le FMI espère y voir figurer, une politique budgétaire prudente et durable afin de créer l'espace budgétaire nécessaire pour les dépenses sociales et d'investissement. Au-delà des prescriptions traditionnelles, le FMI met en avant le besoin de se préparer à amortir les chocs en constituant notamment des réserves budgétaires ou en faisant avancer la stratégie d'adaptation du Tchad face à la fréquence croissante et la gravité des événements climatiques.
Charlotte Cossé, service économie de Radio France Internationale. Cela faisait 13 ans qu'il n'était pas allé en Libye. Denis Sassou Nguesso y a effectué une visite de 3 jours. Le président du Congo-Brazzaville s'y est rendu en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, au programme des entretiens avec les principaux responsables du pays à Tripoli, mais aussi à Benghazi, d'abord avec les autorités de l'Ouest, puis celles de l'Est. Pour rappel, l'objectif de cette mission est d'encourager les Libyens à dépasser leurs divisions en lançant un processus de réconciliation nationale qui pourrait mener à des élections. Un comité qui, depuis 4 ans et la conférence de Berlin, ne change pas de stratégie et garde le cap. Ouda Ibrahim.
À Tripoli, le président Denis Sassou Nguesso affiche son optimisme. L'espoir est permis, déclare-t-il suite à sa rencontre lundi avec son homologue libyen Mohamed Lemnefi. Faute de pouvoir organiser la conférence de réconciliation nationale dans l'immédiat, il vient avec une autre idée, une nouvelle contribution, selon l'expression de Jean-Claude Gakosso, son ministre des Affaires étrangères, qui est de la visite. En effet, le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye espère obtenir en février prochain, lors du sommet de chefs d'État africains à Addis Abeba, la signature d'une charte de réconciliation libyenne, faute d'une conférence. Pour le président congolais, il revient aux Libyens d'élaborer cette charte en fonction de leur histoire, leur culture et leurs aspirations, avec une contribution africaine pour que cette charte acquière l'adhésion de tous. Selon nos informations, des ébauches du texte existent. Il faut en faire une mouture consensuelle, indique Gakosso, toujours persuadé de la nécessité de la réconciliation pour avancer sur le dossier libyen.
Le procureur de la CPI, Karim Rana, a demandé au juge de reconnaître Ali Kouchaïb coupable des crimes dont il est accusé, l'ancien chef Janjaweed au Soudan et dans le collimateur de la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2003 et 2004 au Darfour. Lui qui devrait prendre la parole demain au terme de cette série d'audiences historiques, puisque c'est la première fois qu'un responsable soudanais est visé par cette instance. Le président sud-soudanais Salva Kiir a lui limogé plusieurs officiels de haut rang en début de semaine. Parmi les concernés, le chef de l'armée en poste depuis 2021, celui de la police ou encore le gouverneur de la banque centrale. La raison de ces limogeages n'est pas connue, mais font suite à ceux d'autres figures du pouvoir début octobre, notamment celui du chef des renseignements présent depuis 2011. Plusieurs attaques djihadistes distinctes ces derniers jours au Niger, dans le sud-ouest du pays, non loin des frontières avec le Burkina Faso et le Mali. Hier, notamment, le village de Libiri et ses habitants ont été pris pour cible. Précision apportée par Sabine Mélé.
Hier après-midi, lors d'une descente dans un village situé non loin du site aurifère de Samira, les djihadistes ont chassé la population avant de mettre le feu au village de Libiri. Le gigantesque brasier était visible de loin. Selon les premiers témoignages, vidéo à l'appui, les hommes armés circulaient à bord de dizaines de motos. Après leur forfait, ils ont pris la direction de la frontière du Burkina Faso où les combats entre l'armée régulière et les djihadistes de l'EIGS se sont intensifiés. À Chatouman, dans cette même zone, selon des sources locales et sécuritaires, une centaine de soldats a été tués mardi. On dénombre également des blessés qui ont été évacués vers le district sanitaire de Terra. Plusieurs ambulances ont été observées toute la journée d'hier par des habitants de la région. Dans un communiqué diffusé sur la télévision nationale, l'état-major général des forces armées nigériennes a démenti toute attaque djihadiste dans la zone. Toutefois, le communiqué précise que 10 soldats ont été enterrés ce mercredi au carré des martyrs de Niamey.
Et puis RFI a appris la mort hier d'Hugo Sada à l'âge de 72 ans, ancien journaliste également pour Jeune Afrique. Il avait passé les dernières années de sa vie professionnelle à l'Organisation internationale de la francophonie, nommé par Abdou Diouf au poste de délégué à la paix aux autorités. Droits de l'homme et à la démocratie, témoignage de Tidiane Dio qui rend hommage à cette icône de la francophonie qui était Hugo Sada.
Il avait une connaissance intime de l'Afrique et de ses acteurs, une connaissance de plusieurs décennies. Il avait gardé comme ça des contacts très précis avec beaucoup d'acteurs politiques qu'on soupçonnait pas. Et en plus, il avait l'avantage de connaître beaucoup, beaucoup d'hommes politiques français, notamment de gauche, puisqu'ils étaient affiliés au Parti Socialiste, comme chacun le sait. La période où il a dirigé la délégation aux droits de l'homme a été une période où la délégation était dans sa... comment dire, dans sa maturité. En plus, il était très souvent sur le terrain. C'est la période où la francophonie a vraiment développé une expertise que le monde entier aujourd'hui lui reconnaît, par exemple, sur les fichiers électoraux, tout ce qui est du domaine de l'élection, etc. Et une période où la voix de la francophonie était entendue et attendue.
Tidiane Dio avec Eva Massy, RFI Matin Suite et Fin, André de Mellard.